Est-ce que vous voulez que je vous parle 4 minutes de la guerre de 1870? Parce que Roger, il a parlé du panorama. Bon, la guerre était voulue par la Prusse. Pourquoi? Parce que la Prusse voulait faire l'unité de l'Allemagne à son profit. Comme le Piémont avait réalisé l'unité de l'Italie à son profit. Et rien ne vaut une bonne guerre pour serrer les rangs, faire l'unité. Bismarck, qui était le chancelier de Prusse, va en fait manœuvrer pour amener la France à déclarer la guerre à la Prusse de telle façon que les autres États allemands qui avaient une alliance défensive soient obligés d'entrer dans la guerre aux côtés de la Prusse. Une fois qu'on aura fait la guerre ensemble, eh bien, on continuera à vivre ensemble dans la paix. Parce que certains de ces États allemands, par exemple la Bavière, qui était le plus important après la Prusse, archi-catholique, n'avaient en vérité aucune envie d'entrer dans l'orbite prussienne. Et toute l'adresse de Bismarck, ce sera de provoquer la France de telle façon que la France prenne l'initiative de la guerre, prenne la responsabilité de la guerre, et la France se rendra d'ailleurs très impopulaire dans cette guerre, parce que finalement les autres États diront, ben c'est votre faute, c'est vous qui avez déclaré la guerre, etc. Alors que aujourd'hui, où les archives sont ouvertes, on a une vision tout à fait différente des responsabilités, parce qu'on peut très bien identifier cette manœuvre cruciale. La guerre est donc déclarée en juillet, avec une France convaincue de sa supériorité, donc que la guerre ce sera une affaire de quelques jours ou quelques semaines, et qu'on reviendra victorieux. La fameuse phrase du Premier ministre, cette guerre je la déclare d'un cœur léger. C'est des phrases qu'on n'oublie pas, parce que qu'est-ce qui se passe? Dès les premières batailles, c'est des défaites, les unes après les autres, l'armée française est obligée d'évacuer l'Alsace, et la Lorraine, à l'exception de quelques villes fortifiées qui sont assiégées, comme Strasbourg, comme Metz, comme Belfort, tout près de la Suisse. Et puis, l'empereur lui-même capitule à Sedan, le 2 septembre, avec 90 000 hommes. Il est emmené prisonnier en Allemagne, donc c'est la fin de l'Empire. La République est proclamée le 4 septembre. Mais la situation militaire, elle est totalement désastreuse. Et à partir de mi-septembre, les Prussiens assiègent Paris, où évidemment, très rapidement, les gens commencent à souffrir de la faim, et ensuite du froid, puisqu'il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de nourriture, et puis on tue les chiens, on tue les chats, pour arriver à survivre. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Et alors, le ministre de la Défense du gouvernement républicain, Léon Gambetta, qui avait été au fond la figure de proue lors de la proclamation de la République, s'échappe de la capitale en ballon, vous pouvez imaginer la scène, n'est-ce pas, pour échapper au siège des Prussiens, et puis va essayer d'organiser la défense de la France en province, avec cette obsession qu'il faut arriver à contraindre les Prussiens à lever le siège de la capitale. On va réunir une nouvelle armée qu'on appelle l'armée de la Loire, parce qu'elle est rassemblée au sud de Paris, dans la région d'Orléans, en récupérant ce qu'on peut récupérer de l'ancienne armée impériale, et puis avec beaucoup de jeunes conscrits, donc des gens qui avaient échappé au service militaire, et puis à qui on donne un uniforme, un fusil, et puis allez-y gaiement. Évidemment, face à une armée prussienne bien entraînée, ils font pas le poids, et ils sont battus, c'est la grande bataille de Beaune-la-Rolande, où l'armée française va subir des pertes terribles, elle est repoussée de nouveau vers le sud. Et à ce moment-là, la République se dit, ben, il n'y a plus qu'une carte à jouer, c'est une grande manœuvre de diversion en direction de l'Est. Pourquoi en direction de l'Est? Parce qu'à Belfort, cette place forte qui, vous voyez où c'est là, au nord de la Joie, là, qui contrôle le passage entre les Vosges et le Jura, entre les Vosges et le Jura, près de la frontière suisse, vous aviez une garnison qui, depuis 6 mois, tenait tête aux Prussiens. Donc l'idée, c'est qu'on va arriver à libérer Belfort de ce siège prussien, et ensuite faire un mouvement à travers l'Alsace, où on coupera les lignes de soutien de l'armée allemande. Donc ça obligera les Prussiens à déplacer leurs troupes de Paris vers l'Alsace et on va comme ça libérer la capitale. Évidemment, ça ne marche pas parce qu'on est en plein hiver, il y a beaucoup de neige, il fait très froid, donc l'armée avance très lentement et ça donne tout le temps aux Prussiens d'organiser une ligne de défense très efficace sur une petite rivière qui s'appelle la Lizaine, vous êtes pardonné si vous ne connaissez pas, qui était à quelques kilomètres de Belfort. Et puis, ils ont coupé tous les ponts, donc évidemment, se battre, traverser une rivière en plein hiver quand il n'y a pas de pont, etc. Vous imaginez les difficultés. Cette armée française subit des pertes considérables. Il y a 3 jours de bataille, donc 3 jours de suite, on va lancer une offensive après l'autre pour essayer de forcer ces lignes prussiennes sans succès. Et puis après 3 jours, le commandant-chef de cette armée, qui est le général Bourbaki, d'où le nom des Bourbaki, c'était un officier d'origine grecque, d'où ce nom, finalement comprend qu'il n'a pas d'autre solution que de se replier, d'autant plus que l'état-major prussien, quand il s'est rendu compte de ce mouvement de l'armée de l'Est, a prélevé une partie des troupes qui assiègent Paris, constitué une nouvelle armée, et puis cette armée traverse la Bourgogne et donc marche sur les arrières de l'armée de l'Est. Donc elle va couper les lignes de ravitaillement, les lignes de soutien. Donc il n'y a pas d'autre solution que de se replier, et puis c'est une retraite qui tourne complètement en désastre, en bérésina, dans une neige épouvantable, les hommes ne sont pas nourris, le ravitaillement n'a pas suivi, une partie sont même dans des uniformes de coton, alors qu'il fait des moins 10, moins 15 ans. Pendant la nuit, les chevaux n'ont pas été ferrés pour le verglas, donc ils tombent, et quand ils sont tombés, ils n'arrivent même plus à se relever, etc. Donc c'est vraiment une répétition de la retraite de Russie sur une plus petite échelle le long du Jura, et puis finalement l'armée française se trouve acculée entre les deux armées allemandes, celle qui a été envoyée depuis Paris et puis celle qui a tenu tête sur la Lizaine, qui a fait mouvement, et se trouve coincée comme ça avec l'alternative ou bien de se rendre ou bien de demander l'asile en Suisse. Bourbaki, désespéré, tente de se suicider, se loupe, mais il est blessé. Il a confié le commandement à son adjoint, qui était le général Clinchamp. Et puis, ce général Clinchamp envoie un émissaire en Suisse pour dire on n'a pas d'autre solution et on va demander l'asile. Et donc, il envoie un officier d'état-major qui rencontre le général en chef de l'armée suisse, le général Herzog, qui lui dit voilà les conditions, dicte une petite convention en 10 articles. Le gars la prend, l'amène au général Clinchamp qui était resté sur le côté français de la frontière, qui signe, et puis en quelques minutes, la chose est faite. Et les troupes sont autorisées à entrer en Suisse. Ça prendra 1 jour et demi pour accueillir 87 000 soldats, plus de 10 000 chevaux, 280 pièces d'artillerie, les fourgons, les voitures de poste, etc., avec des gens qui sont plus ou moins moribonds pour toute une partie. Et alors sur 87 000 hommes qui sont accueillis en Suisse, pratiquement 20 000 devront être hospitalisés, donc 1 sur 5, parce que ils n'ont pas été vaccinés contre la variole, donc il y a beaucoup de gens qui ont la variole, le typhus, parce qu'évidemment les armées c'est propice à la propagation des épidémies, beaucoup qui souffrent de maladies pulmonaires, donc de pneumonie, et beaucoup qui souffrent de gelures, notamment aux pieds, parce qu'ils avaient des chaussures de très mauvaise qualité, une partie était pieds nus dans la neige, donc vous imaginez le désastre. Et puis, le Conseil fédéral, alors, n'y va pas par 4 chemins, il prend la liste des cantons, la clé de la répartition, et puis, il y a une liste, elle est connue, elle est publiée dans les journaux, d'ailleurs, Berne 20 000, Zurich 11 000, Vaud 5 000, Genève 1 500. Chaque canton doit accueillir un contingent, à l'exception du Tessin, vu que vous n'aviez pas le tunnel du Gothard. Donc, il était exclu d'envoyer ses soldats au Tessin à travers le col du Gothard, où il y avait 2 mètres de neige et il fallait monter à 2000 mètres. Donc, toute la Suisse a été impliquée dans l'accueil. Donc, c'est ça qui explique l'impact psychologique de cette affaire. D'où aussi le fait que Henneberg se dit il y a un filon à exploiter. C'était cet impact psychologique énorme de cette affaire où toute la population s'est mobilisée. Bon, l'armée avait la responsabilité d'assurer le ravitaillement, mais en vérité, c'est beaucoup la population dans un geste très spontané. Et puis on a cuit des immenses bassines de soupe pour pouvoir ravitailler les colonnes qui passaient, du pain, du fromage, etc. Vous pouvez imaginer. Et alors, c'était les débuts de la Croix-Rouge suisse. Donc, un peu la Croix-Rouge, elle a utilisé, mobilisé, il s'est créé des comités ici ou là pour justement venir en aide à ces soldats. Donc, c'est la première grande action de secours de la Croix-Rouge suisse. Malheureusement, il n'y a pas de rapport de synthèse de la Croix-Rouge suisse, mais il y a un très bon rapport de la section neuchâteloise, donc qui était aux premières lignes, évidemment. Les points d'entrée, c'était les Verrières pour environ un tiers. Et puis c'était la trouée de Valorbe, Sainte-Croix, la route Pontarlier-Sainte-Croix par le col des Étroits, et puis la trouée de Valorbe, Balègue, également pour un contingent important. Et dès l'accueil, le Conseil fédéral a chargé le représentant de la Suisse à Paris, le ministre Kern, d'entreprendre des démarches en vue du rapatriement, mais évidemment la Suisse ne pouvait pas rapatrier ses soldats sans l'accord de l'Allemagne, parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne aurait dit à la Suisse, vous aidez la France à récupérer une armée. Donc, la Suisse a entrepris des négociations avec la France et avec l'Allemagne pour obtenir le droit de rapatrier ses soldats. Mais l'Allemagne n'a pas voulu en entendre parler, parce que l'Allemagne voulait maintenir un maximum de pression sur la France pour contraindre la France d'accepter un traité de paix qui était très humiliant pour la République, puisque la République devait accepter la cession de l'Alsace et de la Lorraine. Et donc, parmi d'autres éléments, le fait qu'il y avait ces 90 000 soldats français en Suisse et que la France s'était engagée à rembourser le coût du rapatriement, c'était un élément de plus pour maintenir la pression sur la République. Donc, il a fallu attendre la signature de ce qu'on appelait les préliminaires de paix, qui était un accord cadre, en quelque sorte, du traité de paix, pour que le Conseil fédéral puisse organiser le rapatriement. Et puis, ils sont rapatriés sur 10 jours, entre le 14 et le 24 mars. Donc, ils sont restés 6 à 8 semaines, pas plus, mais c'était suffisant pour que toute la population soit très, très concernée par cet événement. Et puis, en effet, en 6 semaines, ils sont repartis en meilleures conditions, sous réserve de 1700 qui sont morts en Suisse. Et dans beaucoup de cimetières en Suisse, il y a des petits monuments qui rappellent ces soldats qui sont morts en Suisse. Il y en a à Bâle, il y en a à Lucerne. À Lucerne, il y a même un monument spécial pour les Algériens, parce que dans l'ombre, l'armée française, qui était tellement à court de troupes, avait aussi transféré des soldats d'Algérie. Donc si vous regardez bien le panorama, vous verrez qu'il a représenté ce qu'on appelait les zouaves, avec des gros pantalons bouffants, et des vestes brodées, etc. Donc voilà. D'où l'événement des Bourbaki.
Après, c'est à Châtelet, au cimetière de Châtelet, le monument aux morts.
Alors à Genève, ils ont été répartis entre... Donc Genève en a accueilli 1500 qui ont été répartis entre le temple de la Fusterie, le palais électoral, ce qu'on appelait la boîte à claques, là où il y a maintenant Unideux, ce bâtiment qui a brûlé en 1960, mais qui existait encore à l'époque où moi j'étais collégien, et puis le stand Carouge. C'était les trois. Oui, ben il devait y avoir un grand stand à Carouge à l'époque, parce que les documents mentionnent le stand Carouge. Ce qui est très intéressant, si vous vous intéressez à l'histoire, c'est que vous pouvez consulter le journal de Genève online sur le site du journal Le Temps. Donc vous faites www.le.fr. en un mot, letemps.ch, archives, et vous trouvez le journal de Genève, et puis vous pouvez prendre 1er février, 2 février, 3 février, et vous trouvez toutes les informations, tous les articles de l'époque, et c'est entièrement numérisé, y compris les pages d'annonces. Même chose pour la Gazette de Lausanne, puisque les deux journaux ont fusionné. Et alors, c'est très intéressant, si vous cherchez la répartition dans le canton de Vaud, vous trouvez dans les annonces, parce que le Conseil d'État vaudois, n'est-ce pas, la Suisse n'était pas riche comme aujourd'hui, c'était un pays pauvre, place des annonces en disant, on cherche des fournisseurs de pain, de céréales, de etc., de viande, Payerne 400, Montreux 200, Vevey 600, donc ça vous donne la clé de répartition, puis ensuite vous continuez, puis vous trouvez, on cherche du fourrage, et ça vous donne la répartition des chevaux, évidemment. Donc même les annonces, si on les regarde bien, c'est intéressant. On voit que le Conseil fédéral a placé un emprunt, parce qu'il fallait financer l'opération. 15 millions, donc ils demandaient des souscriptions, et puis les gens ont accepté de contribuer au financement de l'opération.
Ils étaient mis dans les familles genevoises.
Alors, il y a des gens qui ont été accueillis dans des familles, notamment dans des familles paysannes.
Voilà,
mais le gros, ils étaient assignés. Donc, par exemple, on a suspendu, dans beaucoup de régions, on a suspendu les écoles, puis on a réquisitionné les écoles pour placer des soldats. En première priorité, on a utilisé les casernes, les salles communales, les salles de gymnastique, les salles de chant, etc. Et puis ensuite, les écoles, et les églises, bien sûr. Ben oui, il y a cette fameuse photo de Frédéric Boissonnat où on voit un groupe dans le temple du Martyret qui était une de ces églises de l'église libre à Lausanne. À Neuchâtel, vous lisez que le temple du Bas était réquisitionné, etc. Donc ça vous donne
un peu. Il y en avait un peu partout dans la ville.
Il y en avait partout en Suisse. C'est pour ça que la Suisse se sentait très concernée par cet événement. Sans ça, Hennebert, il n'aurait jamais eu l'idée de faire ce panorama sur ce thème-là.
Mais c'est parce qu'on parle déjà de la neutralité de la Suisse.
Ah ben la neutralité de la Suisse,
elle est,
si vous voulez, elle est confirmée par les traités de 1815. C'est le congrès de Vienne, l'acte final du congrès de Vienne est le traité de Paris 1815. Où il y a la reconnaissance que la neutralité de la Suisse est dans l'intérêt de l'Europe. Et où les puissances signataires se portaient garantes de la neutralité suisse. Et au moment où la guerre éclate, le 15 juillet, le Conseil fédéral envoie à la France et à la Prusse une note en disant « Dans la guerre à venir, la Suisse confirme sa neutralité. » Et demande aux États belligérants de s'engager à respecter la neutralité suisse. Et parallèlement à cette démarche diplomatique, la Suisse mobilise une partie de l'armée, pas la totalité, mais une partie de l'armée, et puis nomme un général, comme on l'a fait ensuite en 14 et en 39, et c'est le général Hans Herzog, qui était un Argovien, chef de l'artillerie, qui est nommé général en chef de l'armée. Et sur le panorama, mais alors ça c'est pas authentique, le reste est authentique, mais il y a une espèce de poignée de main des deux généraux, donc le général Clinchamp avec la casquette rouge et le général Herzog, et ça c'est faux. Il n'y a aucun document qui montre qu'ils se sont serrés la main comme ça à la frontière. Donc ça c'est une concession que... en quelque sorte, Édouard IV fait à l'attente du public. Et puis, ils sont entourés de leur petite étape. Oui, c'est symbolique, vous avez tout à fait raison, madame. C'est tout à fait symbolique, puisque c'est les deux signataires de la convention. Mais ils ne sont pas rencontrés pour signer la convention. On sait que c'est l'aide de camp, le premier aide de camp du général Clinchon, qui était un lieutenant-colonel Schwarz. C'est un drôle de nom, mais c'est comme ça qu'il s'appelait. Oui, Schwarz, avec S à la fin, Schwarz, qui est venu aux Verrières, qui a rencontré le général Herzog le matin. Le général Herzog lui a dicté le truc, il y a trois aides qui l'ont noté, donc il y a trois copies, et puis il a pris les copies, il est allé voir son chef qui était resté de l'autre côté, le gars a pris sa plume, il a signé, il est revenu, il a dit le document est signé, c'est bon, il s'en a fait rentrer. Et voilà. Et alors c'est très intéressant parce que c'est une petite convention en 10 articles, mais qui pose les bases de l'internement de ces soldats. Et alors, elle est conservée aux archives fédérales à Berne, oui, bien sûr. Et il y en a une copie certainement à Paris, aux archives françaises. Hein. Mais je ne suis pas allé voir à Paris, je connais l'exemplaire des archives fédérales, parce que j'en ai vu une photocopie, je ne suis pas allé les voir, mais c'est publié dans les documents diplomatiques suisses. Elle est publiée dans le journal de Genève et dans la Gazette de Lausanne. Donc si vous allez sur le site, vous trouvez la convention, vous trouvez l'ordonnance du Conseil fédéral qui règle l'internement, et c'est très intéressant. Par exemple, il y a une disposition qui interdit le prosélytisme. Donc, il fallait pas profiter de ce qu'avaient tous les Français qui étaient là pour aller leur apporter la bonne parole, ça c'était interdit. Les responsabilités, la discipline, les sanctions en cas d'invasion et tout ça. Et tout ça est publié parce que on veut aussi que le public y participe. Et la clé de répartition entre les cantons est aussi publiée. Et même vous trouvez la clé de répartition dans beaucoup de cantons, donc. Combien à Toul, combien à Interlaken, combien à etc.